penser l'après. Toute cette semaine, avec nos invités, nous réfléchissons à ce que ce monde peut nous apporter. Quelle nouvelle page s'est ouverte depuis quelques jours? L'Afrique est-elle un laboratoire du monde de demain? Avec nous, en direct d'Afrique du Sud, l'historien politiste Achille Mbembe, théoricien du post-colonialisme, professeur à l'université de Witwatersrand à Johannesburg. D'origine camerounaise, il a étudié en France, longtemps enseigné aux États-Unis, où il continue de faire des allers-retours avant de s'installer en Afrique du Sud. Après Politique de l'inimitié, il publie aujourd'hui Brutalisme à la découverte. Brutalisme, un brutalisme qui repose, dit-il, sur la fin de la distinction entre le vivant et les machines. Les mondes de la matière, écrit-il, de la machine et de la vie, ne font plus qu'un. Brutalisme qui évoque enfin le poids des matières brutes. Bonjour à vous, Achille Mbembe.
Bonjour.
Tentative de définition, mais moins bien que vous, on va y revenir, de ce brutalisme tel que vous l'avez théorisé. Le mot nous parle, en tout cas le mot nous heurte, et j'imagine que c'est aussi à ça que vous avez pensé en refondant ce concept, en le sortant de ses origines de la physique, de la matière, pour l'appliquer à nos vies aujourd'hui. Mais d'abord, vous êtes aujourd'hui en Afrique du Sud, encore confiné, les frontières n'ont pas rouvertes, vous ne pouvez pas être avec nous en studio. Comment se passe cette période pour vous? Comment la regardez-vous avec ce virus mondialisé, une planète à l'arrêt? Que nous arrive-t-il, Achille Mbembe?
C'est très difficile de dire en un mot ce qui nous arrive. Ce qui me frappe, c'est quand même le fait que nous vivons une époque, un âge que je dirais... caractérisé par le déchaînement d'un ensemble de forces, à la fois des forces humaines, des forces virales, des forces naturelles, voire des forces géologiques, organiques, et ainsi de suite. Et il me semble que c'est également une époque qui est dominée par trois interrogations qui sont au cœur de l'ouvrage Brutalisme. D'un côté, le calcul, l'apparition du calcul sous sa forme computationnelle, de l'autre l'économie sous sa forme neurobiologique, et troisièmement le vivant, vous en avez parlé, mais un vivant qui est en proie, me semble-t-il, à un processus de carbonisation. Et je dirais que ces forces se sont déchaînées en partie en conséquence de la manière dont nous, par nous je veux dire l'humanité, nous sommes intervenus dans les relations qui nous lient à toutes sortes d'entités humaines et non humaines qui peuplent la planète. Et nos manières de manipuler le vivant, d'intervenir dans ces relations, tout cela, je crois, a abouti à une incalculable destruction des habitats. Ça a abouti à l'épuisement non seulement des ressources naturelles, mais aussi des énergies physiques, psychiques, nécessaires au renouvellement des formes de vie. Et cette affaire du renouvellement des formes de vie, je crois que ça va être l'interrogation fondamentale de ce siècle.
Vous pensez qu'on est dans un moment charnière, un tournant de cette humanité qui joue aujourd'hui sa survie après avoir beaucoup dépensé, consommé, gaspillé, comme vous l'évoquez, Achille Mbembe. Est-ce que l'humanité saura s'amender?
Oui, faudrait voir. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est que la question de l'habitabilité même de la planète, elle est devant nous, cette question. On ne peut plus faire comme si elle n'était pas posée à nous tous, pas à un pays, pas à une région, pas à une communauté, mais à l'ensemble de l'humanité. Et je crois que c'est la raison pour laquelle les luttes décisives de ce siècle auront, à mon avis, pour enjeu la survie à long terme de l'espèce humaine sur l'ensemble de la surface de la Terre. Et quand je dis la survie commence, et bien entendu, par l'accès à tous à un droit qu'il me semble urgent de concevoir et de conceptualiser ce que j'appelle un droit universel à la respiration. Et de ce point de vue, il est tout à fait significatif que la COVID-19, entre tous les dégâts qu'elle provoque, le tout premier dégât qu'elle provoque, c'est de s'attaquer à nos fonctions respiratoires. Fonctions qui sont une des fonctions élémentaires du corps. Et on se retourne au corps humain, au fait qu'il est incontournable, va de pair, je crois, avec le retour à ce que l'on pourrait appeler le corps de la Terre, le corps de notre planète. D'où, à mon sens, l'inséparabilité des luttes, par exemple, contre le racisme et des luttes pour la justice climatique.
Un droit universel à la respiration, tous égaux, ce serait ça l'idéal, hein, dans et devant la respiration. Est-ce que nous sommes tous égaux devant ce virus? Est-ce que nous l'avons été pour vous, Achille Mbembe?
Non, nous ne sommes pas une des grandes constatations pour sortir, pour ceux qui en sortent déjà de ce confinement. C'est cette banalité d'un rapport inégal à la mort. C'est-à-dire que aux États-Unis, par exemple, ceux qui sont les plus exposés à la mort, c'est évidemment les couches subalternes de la société. Je crois que cela vaut à peu près partout. Et donc, en rigueur de terme, il n'y a pas d'égalité lorsqu'il s'agit de notre exposition à la mort et à des risques mortels. Mais la mort, en tant que phénomène général, tout le monde y passe. On y passe par plusieurs voies, mais on est tous appelés à passer par là. Ce qui fait de nous fondamentalement des passants.
Comment l'Afrique du Sud a-t-elle réagi à l'épidémie? On sait que c'est un des pays du continent africain qui a été le plus touché. Comment le pays a-t-il réagi?
Le gouvernement sud-africain a pris très au sérieux cette menace et a déployé à cette occasion un visage qu'on ne lui connaissait pas, un visage qui a été dessiné par la constitution sud-africaine elle-même au sortir de l'apartheid. Le visage d'un pouvoir dont la fonction principale est de protéger la vie. Un pouvoir dont le mandat universel est de prendre soin des siens. Je crois que le gouvernement a pris cela au sérieux, mais évidemment, on fait face à une pandémie gigantesque, colossale. Il se pose donc un problème de moyens. L'Afrique du Sud n'est pas un pays développé dans le sens où on l'entend généralement. Il n'est pas un pays pauvre, même si les inégalités y sont grandioses. Mais ce qui est frappant, c'est que le gouvernement sud-africain, tout comme d'autres gouvernements africains, je pense au gouvernement sénégalais par exemple, a essayé autant que possible de protéger ces gens face à une menace tout à fait sérieuse.
En France, comme en Afrique du Sud, vous venez d'évoquer, Achille Mbembe, nos gouvernements, nos dirigeants ont essayé de protéger la vie de leurs citoyens. Mais quelle vie? Est-ce que vous diriez, comme Giorgio Agamben, que c'est la vie nue qui a été valorisée, protégée, défendue pendant ces dernières semaines, qu'en revanche, la vie sociale, ce corps collectif, lui, il a été négligé et que tout le travail va donc commencer maintenant d'essayer de reprendre soin de nous, d'un nous commun qui a été lui aussi abîmé par cette épidémie?
En fait, tout a été remis en question par cette épidémie. Cette épidémie a également permis de voir sous un angle nouveau le fait que c'est un peu la condition humaine biologique et corporelle qui est de nouveau la cible et le terrain d'expression privilégié des pouvoirs. On voit très bien comment cibler et discriminer les populations selon les facteurs de risque, risque de devenir un aspect fondamental du gouvernement des multitudes. Ça l'était déjà pour beaucoup, ça l'était par exemple pour les communautés racisées dans les grands laboratoires racistes de l'ère moderne, les États-Unis, les Caraïbes, le Brésil, l'Afrique du Sud. Et dans ce retour du corps me semble être quelque chose qui exige réflexion. Vous soulevez la question de savoir qu'est-ce qu'il en est des autres dimensions de l'existence collective. Ces autres dimensions ont été également ébranlées et c'est à reconstruire tout cela qu'appellent les temps qui viennent. Le danger, c'est que la pause contrainte par laquelle nous avons dû passer n'ait été au fond qu'une ruse pour plus d'accélération et qu'on retourne à ce qui se faisait avant et qu'on ne tire aucune leçon de l'événement qui vient de se passer, qui continue d'ailleurs pour une grande partie de nos pays.
Alors comme Armut Rosa de l'école de Francfort, comme Paul Virilio en son temps, vous appelez, vous, Achille Mbembe, aussi à décélérer. Quelle forme ce ralentissement devrait-il prendre à vos yeux?
Mais ce ralentissement prendra plusieurs formes nécessairement en fonction des lieux, des localités, des histoires hétérogènes qui tissent notre histoire commune. En Afrique en particulier, cette décélération passera nécessairement par plus de démocratisation, par des ruptures significatives avec les régimes tyranniques qui ont dominé le continent au cours des 60 dernières années. Cette décélération devra prendre la forme d'une réflexion neuve sur les fins de l'économie. L'objectif étant, ici en particulier, de mettre fin à l'antagonisme objectif qui existe entre l'économie et le vivant. Finalement, cette décélération ne sera possible que si, au fond, on en revient à des idées de base, des idées fondamentales. La première idée fondamentale étant que la vie humaine n'a pas de prix, qu'elle est incalculable et que le grand horizon, c'est de construire des sociétés au sein desquelles on n'ait pas besoin de choisir soit l'économique, soit le vivant.
Black Lives Matter, Achille Mbembe, c'est un slogan qui n'est pas nouveau, mais qui a vivement ressurgi dans les rues du monde entier ces derniers jours, ces dernières semaines, depuis la mort de George Floyd. Ces mots-là ont circulé partout, partant de Minneapolis pour gagner le reste du monde, y compris la France aujourd'hui. Black Lives Matter, qu'est-ce que vous entendez, vous, dans ces mots où il est aussi question de la valeur de nos vies,
hein? Oui, c'est la question centrale derrière ce cri de ralliement suite à l'exécution extrajudiciaire de George Floyd et le sentiment de colère, voire de rage, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, le sentiment de deuil et de perte suscité à peu près partout dans le monde au lendemain de l'assassinat de Floyd. Ce qui me frappe en particulier, c'est le fait qu'un grand nombre de personnes de toutes les couleurs se soient levées et aient publiquement exprimé leur consternation à propos d'un événement qui, il n'y a pas longtemps, semblait ne concerner que les communautés, je dirais, marquées au fer de la race, les communautés racisées. Je crois que il faut prendre ces mobilisations au sérieux pour trois raisons. Un, parce qu'elles montrent manifestement qu'on ne peut plus prétendre que le racisme en tant que système n'existe pas. On ne peut plus prétendre qu'il suffirait, par exemple, d'effacer le terme « race » de la Constitution pour que le racisme disparaisse d'un coup de magie. Je crois que les manifestations auxquelles on a assisté constituent un franc désaveu, une franche répudiation de cette fable. J'ai observé, deuxièmement, que ils étaient très nombreux, les jeunes qui y ont participé. Il me semble que beaucoup commencent effectivement à faire le lien entre ce qu'on pourrait appeler la lutte pour la justice climatique et la lutte contre le racisme, parce que le racisme est un écosystème. Et ces deux formes de la lutte ont en commun, je crois, d'être des luttes, une fois de plus, pour le droit universel à la respiration. Le racisme, tout comme la crise du climat, la crise écologique, la crise sanitaire de la COVID-19, il a pour finalité de priver certaines catégories de l'humanité de la vie dans son acception, je dirais, la plus élémentaire. Il y a enfin, me semble-t-il, la prise de conscience du fait que cette menace de privation de vie dans ses aspects les plus élémentaires tend désormais à être le lot de tous. Et d'ailleurs, c'est ce que j'appelais, dans Critique de la raison nègre, paru en 2013, l'universalisation tendancielle de la condition nègre. C'est-à-dire l'idée selon laquelle, aujourd'hui, nous sommes tous, ou à peu près tous, des nègres potentiels. Ou en tout cas, tout concourt à faire du plus grand nombre d'entre nous des nègres potentiels, c'est-à-dire des personnes exposées de façon systémique à des risques mortels de tout genre, risques contre lesquels il existe de moins en moins de remparts, de moins en moins de cours ou de refuges. Et donc c'est tout cela qui me frappe. Ajouté à cela, évidemment, le discrédit presque universel de la police comme institution. La représentation parmi les communautés racisées de la police ou du policier, soit comme la figure derrière laquelle se cache un voyou ou carrément un assassin. Et ce discrédit de la police est un événement qui exige réflexion.
Et cette réflexion, elle est en train de s'ouvrir dans nos sociétés, aux États-Unis, mais pas seulement, en France aussi. Cette remise en question qu'il était nécessaire d'avoir sur les principes à la fois du maintien de l'ordre et sur les figures aussi victimes de ces pratiques, les inégalités que cette police, ce maintien de l'ordre a pu créer. Vous parlez de ce droit universel à la respiration.
C'est peut-être avant qu'on arrive au droit universel à la respiration, peut-être un deuxième mot sur la police. La police est en train de apparaître aux yeux de beaucoup comme un obstacle à la démocratie. Je le dis parce que on ne s'en rend pas compte, mais la très grande majorité des habitants de la Terre, au moment où vous et moi parlons, vivent sous un régime ou l'autre d'exception. À peu près partout, l'état d'urgence fait l'objet de reconductions indéfinies. Et en temps ordinaire, évidemment, la suspension du droit commun faisait déjà partie de l'arsenal des lois sécuritaires, y compris au sein des vieilles démocraties occidentales. Et la pandémie aidant, en fait, c'est un véritable déplacement des pouvoirs que nous assistons. Et typique de ce déplacement, me semble-t-il, est l'extension des pouvoirs de la police et sa militarisation, la façon dont la police de nos jours conjugue, je dirais, l'usage parfois incontrôlé de la force, du secret, tout en jouissant de l'impunité, dans la mesure où la police est autorisée, voire encouragée, à commettre sans crainte des actes en infraction à la loi commune ou à brutaliser des gens sans que ces derniers disposent de quelque recours que ce soit pour se faire justice. Et donc tout cela, me semble-t-il, est tout à fait typique de la sorte de contradiction, de conflit grandissant en d'un côté la protection des libertés publiques et individuelles et de l'autre la protection de l'État, la sécurité de l'État et de ses institutions. Ce qui produit ici et là des rapports entre État et société teintés de méfiance, sinon de défiance.
Là où vous le dites, Achille Mbembe, la justice et la loi devraient être des remparts et devraient le rester.
Oui.
Là où la question de la confiance est essentielle. Il y a quand même, dans Brutalisme, Achille Mbembe, ce droit universel à la respiration que vous évoquez, cette idée qu'on s'en fait, qu'on matérialise dans nos esprits quand vous nous en parlez, là encore, le télescopage avec ces images de la mort, du meurtre de George Floyd, étouffé sous un genou policier, effectivement, se crée dans nos esprits. On peut aussi rapprocher cette analyse que vous faites du virilisme de ces images, avec là encore derrière cette action violence meurtrière le sentiment d'un passé qui travaille nos consciences et qui n'est pas réglé. En France, les manifestations des derniers jours nous obligent aussi à interroger l'idéal républicain et ses non-dits. Ça, c'est ce que nous explique le sociologue Éric Fassin dans les colonnes de Libération. La France adepte du circuler, il n'y a rien à voir. Est-ce qu'elle doit apprendre aussi à se regarder en face, pour vous, Achille Mbembe, vous qui avez vécu longtemps en France, est-ce que vous faites le parallèle entre ce qui s'est passé à Minneapolis et la situation française?
Alors, je crois qu'Éric Fassin a, et beaucoup d'autres d'ailleurs ont expliqué que, de ce point de vue, peut-être que ce à quoi on assiste, c'est à la fin de ce qu'ils appellent l'exception française. Circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir parce que la République ne connaît pas la race. Je crois que l'idée selon laquelle la République ne connaît pas la race participe d'un horizon, et c'est un horizon universel. Ou mieux, on devrait dire, la République ne devrait pas connaître la race. Malheureusement, la race, entre guillemets, existe. Et le racisme, ce n'est pas seulement des actes individuels accomplis au gré des interactions quotidiennes. Le racisme, c'est un écosystème. C'est un écosystème institutionnalisé, routinisé, Et je crois que si la France veut aller de l'avant et dire au reste du monde quelque chose qui puisse résonner, elle a intérêt à être sérieuse sur cette question.
On citait à l'instant Eric Fassin, Achille Mbembe, mais aussi Didier Fassin, venez nous parler et dresser des parallèles entre ces situations, montrant aussi les particularismes de chaque société. C'était la semaine dernière autour de cette grande table. Statue, la statue d'un marchand d'esclaves déboulonné à Bristol, ou la demande de retrait de figure à l'effigie de Léopold II, ça c'est en Belgique, qui a été posée pour condamner son action colonialiste au Congo. Je voulais vous demander votre réaction là-dessus. On repart d'abord en Belgique, en son.
Plus la moindre statue à l'effigie du roi Léopold II à Bruxelles, c'est ce que réclame une pétition en ligne. Ravivée par les protestations aux États-Unis, la polémique n'est pas nouvelle. Léopold II est jugé responsable de la mort de 10 millions de personnes au cours d'un régime colonial sanguinaire au Congo. Signée par des dizaines de milliers de personnes, la pétition exige le retrait des statues d'ici le 30 juin.
La majorité des Belges, c'est pour eux un roi bâtisseur, parce qu'il a construit la Belgique, mais il a construit la Belgique avec aussi une grande partie de l'argent qu'il a volé au Congo.
Les associations de lutte contre le racisme appellent donc à indemniser financièrement la République démocratique du Congo.
Voilà, cette question aussi des symboles qu'il faudrait déboulonner, qui se pose aujourd'hui en Belgique, aux États-Unis, et qui s'est posée il y a quelque temps déjà au Cap avec la statue de Cecil Rhodes. Donc question que vous avez déjà pensée, Achille Mbembe, est-ce qu'on réglera les problèmes en faisant tomber ces statues qui ont été dressées un jour? Est-ce que ça fait partie de la solution, en tout cas pour vous?
Disons que ce qui est vraiment important, c'est que l'Europe, les anciennes puissances coloniales, je crois que ce qui leur manque, c'est la capacité de vérité. La vérité est que les puissances coloniales nous ont pris des choses qu'elles ne pourront jamais nous restituer. Et nous devons apprendre à vivre avec cette perte. Mais ces puissances, de leur côté, devront assumer leurs actes, assumer cette partie que je dirais ombreuse de notre histoire en commun. Et donc, pour que des liens nouveaux se tissent, elles doivent honorer la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité, elle est l'institutrice de la responsabilité. Et donc, je crois que cette dette de vérité, qui est par principe ineffaçable, imprescriptible, elle va nous hanter jusqu'à la fin des temps. Et l'honorer, je crois, passe par l'engagement à réparer aussi bien le tissu que le visage du monde. Et donc, cette affaire de statut, je crois que c'est dans ce contexte philosophique, politique et moral qu'il faut l'inscrire. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, effectivement, qu'il y a des statues qui ont été érigées sur des places où elles n'ont rien à faire. C'était le cas, par exemple, de la statue de Cecil Rhodes, en plein milieu du campus universitaire du Cap. Beaucoup de ces statues sont un obstacle à la vérité et polluent, au fond, la sphère publique, sans laquelle il n'y a pas de démocratie.
Il faut regarder nos passés. Voilà ce que vous nous dites aujourd'hui, Achille Mbembe. Il faut regarder ce passé dans les yeux. Vous appelez l'Europe notamment à rétablir la vérité, qui n'induit pas pour autant une repentance, et vous êtes clair sur ce mot-là. En plus de la restitution, notamment des œuvres d'art, la vraie restitution à faire, c'est celle de la vérité. Si on regarde, et on va conclure là-dessus, il nous reste 2 minutes, vers l'avenir, vous nous invitez aussi à nous tourner vers l'Afrique. L'Afrique comme laboratoire, c'est cette idée que vous développez depuis longtemps. L'Afrique qui peut inspirer le reste du monde. Vous avez cette formule dans votre livre Brutalisme qui parle clairement que l'Afrique n'est pas inventée. La bombe thermobarique ne signifie pas qu'elle n'a rien créé. Elle a privilégié d'autres modes d'existence, un système fait de relations mutuelles, de correspondance où s'opère une circulation continuelle. C'est aussi pour ça qu'il faut maintenant se tourner vers l'Afrique, regarder, observer, apprendre de ce modèle africain, apprendre peut-être des mots comme la solidarité, la coopération.
Oui, tout cela. Pourquoi ? Parce qu'au fond, l'Afrique, c'est le berceau de toute l'humanité. Tout est parti d'ici. Et l'espoir pour la plupart d'entre nous, c'est que ce continent sera, dans un futur proche, aussi la sorte d'oasis à partir laquelle l'humanité tout entière entreprendra la gigantesque œuvre de régénération du vivant qui est devant nous. Et donc, cette affaire de régénération du vivant, je crois que l'Afrique en est d'ores et déjà le laboratoire, ou en tout cas l'un des laboratoires. Et donc, aussi bien notre réflexion que notre vie politique en commun dans le monde ne pourra pas se passer de ce continent.
Voilà, le continent africain est aussi un laboratoire où les opportunités de métastase créatrice sont les plus mûres, écrivez-vous, le retour à l'an commun. Voilà ce à quoi vous nous invitez pour décarboniser le vivant. J'invite ceux qui nous écoutent à lire votre dernier essai, Achille Mbembe, paru à La Découverte. Il se nomme Brutalisme. Merci beaucoup à vous d'être venu virtuellement nous en parler. Merci beaucoup. Merci Achille Mbembe.
Merci à vous.
Merci, merci. Je crois que vous êtes encore en confinement là, en Afrique du Sud, en espérant que vous dépassiez, comme nous, comme ici, comme en Europe, cette pandémie. Plein de courage à vous. Merci et à demain.